Et alors, on trouve l'occasion ici de lire le livre de Jonas, qui est un des plus beaux livres de la Bible, dont on s'est beaucoup moqué. Vous connaissez la célèbre histoire, là. C'était au temps des prêtres députés, dans les années 30, par là, je ne me rappelle plus exactement. Il y en avait qui avaient la langue bien pendue, là, un peu chanoine qui, vous avez entendu parler de ça. Et alors, un jour, il y en a un qui était pris à partie à la chambre par un radical barbu, là, comme on en faisait à l'époque. Quand on croit encore toutes ces balivernes, l'histoire de Jonas, on n'a plus qu'à aller se rhabiller, quelque chose comme ça. Alors, il n'a pas perdu son sang-froid. Il dit, mais quel âge avez-vous, cher monsieur? J'ai 45 ans. Ah, je comprends plus. Je comprends plus. Jonas, il ne restait que 3 jours dans le ventre de la baleine. Et vous, il y a 45 ans que vous êtes dans la peau d'un imbécile. Pas tout l'art dans ce genre de polémique. Je vais trouver une réponse au niveau de la question. Bon. Mais alors, ce Jonas, ben, il faut distinguer 3 plans. Il y a le Jonas historique, il y a le livre de Jonas, et puis il y a le signe de Jonas dont on parle dans l'Évangile. Alors, le Jonas historique, il a droit à quelques versets, là, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 14, temps de Jéroboam, fils de Joas, qui devient roi d'Israël en Samarie, qui règne 41 ans, un des plus longs règnes de la Bible. Et alors, il fait ce qui déplaît à Dieu. Et pourtant, bien qu'il soit un pécheur, il recouvre le territoire d'Israël depuis l'entrée de Hamat, là-bas au nord, jusqu'à la mer de la Araba. C'est très curieux. Voilà, c'est le problème de la rétribution qui est mis en cause. Voilà un méchant qui est comme récompensé. Et c'est pas tout. Selon ce que Dieu, le Dieu d'Israël, avait dit par le ministère de son serviteur, le prophète Jonas, le voilà, fils d'Amittai, qui était de Gath-Hépher, le petit patelin près de Nazareth que nous avons traversé ce matin, en sortant de Nazareth pour aller en direction de Tibériade. Alors, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il est bizarre. Alors, ce Jonas est un personnage tout à fait curieux. Il n'attend qu'à quelques lignes, mais quand même, il a un comportement assez bizarre. Il prédit à ce sacripant de Jéroboam II qu'il sera comme récompensé en recouvrant le grand territoire, depuis Hamad jusqu'à la mer de la Araba. Alors, on ne sait rien de plus. Et à l'époque du retour de l'exil, bon, je me base sur des études qui ont été faites, qu'on trouve maintenant vulgarisées, mais surtout sur un article de la Revue Biblique il y a au moins 25 ans, de M. Feuillet, qui connaît très très bien la Bible, et qui montre que c'est une merveille de style ontologique. Pour faire comprendre ce que c'est que le style ontologique, le père Laurentin, là, dans son livre sur Saint-Luc 1-3, il prend une lettre de Madame de Sévigné. Alors on comprend absolument pas ce qu'elle veut dire. On tourne la page, on trouve 2 colonnes, la même lettre de Madame de Sévigné, et puis à côté une fable de La Fontaine. Alors quand on voit à quoi elle fait allusion, on pige tout de suite ce qu'elle a voulu dire, voyez. Alors il y a beaucoup de livres dans la Bible comme ça, on passe à côté de ce qu'ils veulent dire si on ne connaît pas certains textes supposés connus. Or le livre de Jonas est truffé de textes supposés connus. Je vous le lis en paraphrasant d'après les recherches. La parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, lui dit-il, et va à Ninive, la grande ville. Et à cette époque-là, Ninive, la grande ville, c'était au temps du retour de l'exil, avait déjà disparu, anéanti par un certain Syaxar, roi des Mèdes. Personne ne se laisse prendre. Et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Bah, c'est le langage qu'on a trouvé à propos de Babel, à propos de Sodome et Gomorre, la grande ville. Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis. Alors où est Tarsis? Bah, c'est dans la direction directement opposée. Supposez un prophète que Dieu enverrait aujourd'hui à Moscou et puis qui irait au contraire à New York. Oui, c'est qui prendrait l'avion pour aller de l'autre côté. Loin de Dieu, il descendit. Alors le mot descend est très important. Jonas descend à Jaffa, il descend dans le bateau, il descend au fond du bateau, il est jeté dans la mer, il est englouti par un poisson, il descend au ventre du poisson qui se descend jusqu'au plus profond. Et puis là, il rebondit pas dans la vie. Il descend du mot Yara, c'est très intéressant à souligner dans le livre de Jonas. Et trouva un vaisseau à destination de Tarsis, il paya son passage et s'embarqua pour se rendre avec eux, c'est-à-dire avec ses païens, à Tarsis, main de Dieu, du côté de l'Espagne. Mais Dieu lança sur la mer un vent violent. Il y eut une grande tempête sur la mer au point que le vaisseau menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu, son païen, sur chacun leur Dieu. Pour s'alléger, jetèrent à la mer la cargaison. Et Jonas, cependant, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le chef de l'équipage s'approcha et lui dit, « Qu'est-ce que tu as dormi? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Peut-être Dieu songera-t-il à nous, nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent les uns aux autres, « Tirons donc au sort pour savoir de qui nous vient ce mal. » Ils jetèrent les sorts et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors, « Dis-nous donc quelle est ton affaire, d'où tu viens, quel est ton pays, à quel peuple tu appartiens ?» Alors une belle confession de foi, il a répondu, « Je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Les hommes furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent, Qu'est-ce que tu as fait là ? Ils savaient en effet qu'ils fuyaient loin de Dieu, car ils le l'avaient raconté. Ils lui dirent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que la mer s'apaise pour nous ? Car la mer se soulevait de plus en plus. Il leur répondit, prenez-moi et puis jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera pour vous. Je le sais, c'est à cause de moi que cette violente tempête vous assaille. Alors ces hommes sont des braves filles, pour jeter pas comme ça un homme par-dessus bord, ça se fait pas, même chez les païens. Ils ramèrent pour gagner le rivage, mais en vain, la mer se soulevait de plus en plus contre eux. Alors ils implorèrent le Seigneur, le vrai Dieu, et dirent, ah Seigneur, puissions-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme et puisses-tu ne pas nous charger d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui agis selon ton bon plaisir. Et s'emparant de Jonas, ils le jetèrent à la mer, et la mer apaisa sa fureur. Les hommes furent saisis d'une grande crainte de Dieu, ils offrirent un sacrifice à Dieu et firent des vœux, des païens qui se convertissent, les païens de l'Ouest ce coup-ci. Comme dans l'évangile, il y a la Syrophénicienne qui vient de l'ouest, et puis il y a Naaman des Syriens qui vient de l'est, d'après Paul. Alors, Dieu fit qu'il eut un grand poisson. On ne parle pas de baleine, vous savez que la baleine a un petit gosier, elle a une grande gueule, mais on ne voit pas très bien. Enfin, ça pose des questions qu'on trouve dans les bibliothèques, des discussions sur le sujet. Pour engloutir Jonas, Jonas demeura dans les entrailles du poisson, et si c'est au féminin, peut-être que ça soit plus monstrueux. 3 jours et 3 nuits. Et il ne perd pas son temps. Enfin, des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Et alors, si le psautier, c'est toute la Bible sous forme de prière, on peut dire que le cantique de Jonas, et moi je regrette qu'il ne figure pas dans l'office, passe tout le psautier. Et sur le schéma fondamental de la plupart des psaumes, je ne mourrai pas, je vivrai, je chanterai. Lo amut kerie va saper ma seya. Regardez, c'est un pot pourri des psaumes, vous voyez. Et puis, tentez la puissance des images ici. Puissance d'évocation. De la détresse où j'étais, j'ai crié vers Dieu. Il m'a répondu. Du sein du Shéol, j'ai appelé. Tu as entendu ma voix. Tu m'avais jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer et le flot m'environnait. Toutes tes vagues et tes lames ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Comment contemplerai-je encore ton saint temple? Les eaux m'avaient environné jusqu'à la gorge. L'abîme me cernait. L'algue était enroulée autour de ma tête. À la racine des montagnes, j'étais descendu. En un pays dont les verrous étaient tirés sur moi pour toujours. Mais de la fosse, tu as fait remonter ma vie, Seigneur mon Dieu. Tandis qu'en moi, mon âme défaillait, je me suis souvenu de Dieu, et ma prière est allée jusqu'à toi en ton saint temple. Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Moi, aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. De Dieu vient le salut. Et Dieu commanda au poisson qui vomit Jonas sur le rivage, rideau, entr'acte. C'est admirablement construit. Ouais. Alors, au chapitre 3, la parole de Dieu fut adressée pour la seconde fois à Jonas. « Lève-toi, dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de Dieu. Or, Ninive était une ville divinement grande, un superlatif ici, du tonnerre de Dieu, la grande ville. Il fallait 3 jours rien que pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville, il fit une journée de marche, et il prêcha en ces termes, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne, ils se revêtirent de sacs, et depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, il quitta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Puis l'on cria dans Ninive, et l'on fit par décret du roi et d'écran cette proclamation, « Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront rien, ne mangeront pas, ne boiront pas d'eau, on se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise, ou si Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés et ne les réalisa pas. Ici, l'étude du Père Feuillet la met en parallèle une scène dans Jérémie, à la veille de la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Le roi reçoit le rouleau des prophéties menaçantes, et alors au lieu de les prendre au sérieux, il les lacère avec son couteau et il les jette dans les braseros dont il se servait pour se chauffer l'hiver. Et puis, vous voyez, alors c'est, quand on compare, c'est exactement, il a changé de signe, c'est le même style, c'est le même langage, c'est le même vocabulaire. Alors Jonas est furieux, il se fâcha, mettez-moi un peu à sa place, je suis pas, j'ai pas cherché à être prophète, c'est Dieu qui m'embauche, j'ai essayé même d'y couper, il me ramène, je dis ce qu'il me dit de dire, et ça n'arrive pas. Rappelez-vous le texte du Deutéronome, quel est le test du vrai prophète? Si ce qu'il dit arrive, alors c'est un vrai prophète, si ça n'arrive pas, il ne faut pas le prendre au sérieux. Alors, Jonas se pose des questions. Vous voyez, nous sommes sur une étape d'une théologie qui va évoluer. On distingue des prophéties de bonheur et des prophéties de malheur. Si un prophète fait des prophéties de bonheur qui ne se réalisent pas, c'est que c'est un farceur. Mais s'il fait des prophéties de malheur, s'il s'agit de prophéties de malheur qui ne se réalisent pas, c'est peut-être que les hommes, s'étant repentis, Dieu n'a plus de raison d'exécuter ses menaces. Et même, on ira plus loin. On dira, quand Dieu fait des prophéties de malheur, c'est pour n'avoir pas à les réaliser. Dieu veut qu'on soit sauvé. Il ne parle pas de l'enfer pour qu'on y aille, il parle de l'enfer pour qu'on n'y aille pas. Alors Jonas n'a pas encore compris ça. Il fit une prière au Seigneur. « Ah Seigneur, dit-il, c'est justement ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour ça que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu de pitié, de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. » Oui, la formule de miséricorde de Dieu est prise ici sur un ton de « c'est pour ça, je savais bien, c'est pour ça que je m'étais enfui. Maintenant Seigneur, prends donc ma vie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Ça vous dit rien ça? Élie à l'Horeb. Dieu répondit « Est-ce que tu as raison de te fâcher ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Si la montagne est à l'orient de la ville, hein, c'est Jérusalem, le mont des Oliviers. Il se fit là une hutte et s'assit dessous. Il est persuadé que ça va arriver, le feu du ciel va tomber sur la ville, mais il commence par son petit confort. Il se fit une hutte pour ne pas attraper de coups de soleil, pour être bien, pour assister au spectacle, à l'ombre, pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors regardez comment le bon Dieu procède. Le Seigneur Dieu fit qu'il y eut un ricin qui grandit au-dessus de Jonas, afin de donner de l'ombre à sa tête et de le délivrer ainsi de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais à la pointe de l'aube, le lendemain, Dieu fit qu'il y eut un ver qui piqua le ricin, et celui-ci sécha. Puis quand le soleil se leva, Dieu fit qu'il y eut un vent d'est brûlant. Le soleil darda ses rayons sur la tête de Jonas, qui fut accablé. Il demanda la mort et dit « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». Dieu dit à Jonas « Est-ce que tu as raison de te fâcher ?» Il répondit « Oui, j'ai raison de te fâcher à mort ». Dieu répondit « Toi, tu as de la peine pour ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail, que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une vie a péri. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux. » Point. Qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ça peut être des petits-enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison, ou ça peut être des hommes amoraux, qui n'ont jamais eu l'occasion de former leur conscience morale et qui ne distinguent pas le bien du mal. Eh bien, Dieu aime... pas seulement son peuple élu, il aime tous les hommes de Ninive, il aime les bêtes qui habitent à Ninive, il aime le petit ricin. Hier, je vous ai fait passer exprès, vous montrer les dépassements de l'Ancien au Nouveau Testament d'une façon brutale. Et aujourd'hui, au contraire, je vous montre la continuité extraordinaire. On a ici un petit livre merveilleux qui sert à... un petit livre merveilleux qui frôle l'Évangile. Je me servais autrefois, on faisait des expositions bibliques en France avec le Père Dagoné, et je faisais une conférence d'introduction et ça s'appelait « Faut-il avaler la baleine de Jonas ?» Et je me rappelle que le cardinal Gerlier à Lyon m'a fait enlever l'affiche parce que c'était pas respectueux. « Faut-il avaler la baleine de Jonas ?» Mais c'est une excellente occasion de montrer que dans la Bible, il y a aussi des livres, j'allais dire, il y a la théologie morale, théologie mystique, théologie dogmatique, puis aussi il y a la théologie humoristique. Dieu ne parle pas toujours comme un professeur, comme un maître, il parle fois comme un père à ses enfants. Et puis malheureusement, la théologie humoristique, elle s'apprend pas. Mais une chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que d'après les professeurs, là, le livre de Jonas aurait été publié à une époque où le peuple élu, retour de l'exil après l'édit de Cyrus, était faible et avait tendance à se replier sur lui-même comme pour mieux défendre son identité. C'est l'époque où dans Esdras et Némi, on expulse les femmes étrangères, où on multiplie les règlements pour se mettre à l'abri contre toute influence étrangère. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que Dieu s'arrange toujours pour que sa révélation se fasse par des courants antagonistes. On les croit complètement opposés, on les croit parallèles. En fait, ils sont légèrement convergents et ils se réuniront à un niveau où notre intelligence n'accède pas encore. C'est toujours le problème des intégristes et des progressistes. Il s'agit d'être des progressants. Il faut avoir ses convictions, il faut en même temps respecter celles des autres. Et alors, à l'époque où alors Esdras et Némi qui sont inspirés, sont pour une politique justement de préservation, eh bien, Dieu suscite aussi l'auteur du livre de Jonas, qui montre que les païens, on leur envoie un seul prophète, un tout petit, ils se convertissent. tandis que le peuple, à cette époque-là, il a encore des progrès à faire. Et je crois qu'on a beaucoup de leçons à apprendre là-dessus. On est tous aux prises avec des courants antagonistes comme cela. Il ne s'agit pas d'être intégriste et progressiste, mais d'être progressant. Et puis, savoir s'ouvrir aux opinions des autres. Alors, le signe de Jonas, bon, c'est pas d'abord la baleine. Il y a même des textes évangéliques, on n'en parle même pas de la baleine. C'est la conversion des païens. Et Jésus qui traverse le lac, qui dort sur la barque dans la tempête, qui va vers la Décapole, et puis le païen de la Décapole qui se convertit et qui prêche la bonne nouvelle dans la Décapole, c'est une figure de ce qui, de fait, s'est passé par la suite. L'évangile qui a été accueilli par les païens qui viennent de l'Est, les païens qui viennent de... Déjà dans l'évangile, on a ce balancement. Et Jésus à la synagogue de Nazareth, là, il parle des veuves là-bas de Sarepta, il y en a une, pas c'était une païenne, il parle de Naaman le Syrien, vous voyez, c'est de l'Est et de l'Ouest qu'on vient. Et alors ici, Jésus va sur l'autre rive, là où il y a des païens. Et demain même, nous l'accompagnerons encore plus loin, jusqu'au pied de l'Hermon, aux sources du Jourdain, à Dan, et en terre païenne, encore plus loin que Dan, et c'est là que l'Église est fondée. Là, c'est un drame, le signe de Jonas qui s'exprime comme ça. Mais je crois qu'on va le comprendre encore mieux, ce signe de Jonas, après avoir parlé de la multiplication des pains. Alors on va aller...
Ici, j'ai besoin de faire une petite mise au point là, sur le déroulement du programme. La Bethsaïde est tellement à la charnière entre les deux journées qui se succèdent. Là, la première autour de la question « Quel est cet homme qui ?» et puis la deuxième « Qui dites-vous que je suis ?» que Bethsaïde, la multiplication des pains, est à la charnière. Alors, quelquefois, on l'intègre dans la journée suivante. Alors aujourd'hui, au contraire, je vais continuer. Là, on va monter sur le plateau du Golan et puis contempler le lac dans la belle lumière du soir.